Bonjour les amis, ravi d'être avec vous en ce dimanche. Voilà, on l'a fait. Vous avez entendu bien sûr le sourire de mon compagnon et ami Jean-Pierre Fleury. Nous allons vous parler aujourd'hui des crustacés, ces animaux avec un squelette assez étonnant. On va parler tout cela pendant une heure en compagnie de Jean-Michel Tombigne et de Simon Guéry.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Oui, bonjour Jean-Pierre Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
C'est l'écho, Pierre. Oh. Ouais.
Alors oui. Comment ça va?
Ah bah écoutez, je suis en pleine forme. En plus, on va parler de crustacés.
Ça va bien?
Ah oui, ça va bien.
Et mais puis, pourquoi ça va bien?
Ben parce que ça va bien, parce qu'on va parler de choses que j'adore.
Ah bon. J'aime bien de poser la question comme
oui,
ça.
Oui, toujours. Vrai. Et puis, ah ouais. Oui. Et puis vous, comment ça va bien?
Ben moi ça va parce que je suis ravi de faire ça. Voilà. Et que on va pas tarder à casser la croûte.
Bien sûr. Ah oui, justement. Casser la croûte. Est-ce que ça vient pas de là, la
croûte? Ça pourrait venir, parce que justement, crustacé, ça vient du mot croûte.
Ah oui,
or, je crois savoir qu'il est à peu près midi.
Oui.
Hein, que les gens commencent à avoir faim.
Il y a des chances.
Et qu'il y a peut-être un petit plateau de fruits de mer quelque part. Donc, la condition quand même pour pouvoir avoir accès à ce qu'il y a de bon dedans, c'est de pouvoir casser la croûte de la crustacée.
Voilà. Alors, sur les crustacés, c'est quoi? C'est un nom générique, Jean-Pierre?
Oui, alors encore une fois, c'est compliqué. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est un ordre? On va dire que ce sont des crustacés.
Point.
Qui, il y a quand même 50 000 espèces de crustacés de par le monde.
Hein, ah, donc,
à partir de là, il y en a dans l'eau de mer, l'immense majorité. Il y en a dans les eaux douces. Bon, les plus gros des crustacés des eaux douces, on les connaît. Ce sont les écrevisses.
Mmh.
Puis il y en a à terre. Alors on va se débarrasser de cela si vous voulez.
Ah oui, mais alors,
on va faire un peu de littérature. Vous vous souvenez de la métamorphose des cloportes?
Oui, tout à fait.
Hein, le bouquin de Boudard, le premier. Ces cloportes-là sont des crustacés. Hein, puisqu'ils sont, ils agissent, ils ont des mues successives, ce qui les font que ce ne sont pas des acariens, hein. Et donc une vie larvaire, ce ne sont pas des insectes non plus, malgré ça. Et c'est assez étonnant, son nom vient du fait qu'il se met en boule. Il clôt la porte. C'est un cloporte.
Ah, d'accord, c'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Chez nos amis occitans, c'est le porc de la grotte, le cochon de la grotte. Parce qu'il se plaît dans des lieux obscurs, et puis on suppose qu'il n'est pas très regardant sur ce qu'il bouffe, quoi. Mm-hmm. Par contre, on se souvient peut-être qu'il était que réduit en poudre, j'avais pas fait, il était idéal pour les calculs rénaux.
Le crabe?
Le cloporte.
Le cloporte. Ah
bon? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, certaines de ces vertus-là pour avec la poudre
d'huître.
De carapace.
Et d'huître aussi, paraît-il.
Oui, bah, c'est le calcium, peut-être.
Calcium, oui, voilà.
Bon, on a dit que, les crustacés, il y en a dans l'eau de mer, et puis, bien sûr, on va aller vers eux. C'est assez étonnant, ceux qu'il y a dans l'eau de mer, ils vont, alors du crabe géant qui fait rêver, hein, qui
là, c'est le faire. Crabe du Kamchatka, c'est ça?
Il y a le Kamchatka, il y a le crabe du Japon, il y en a, ils se battent très, très souvent d'ailleurs, c'est le King Crab, le crabe royal et tout ça est mis dans les mêmes boîtes parce que ça se vend très très cher, ça fait rêver, parce qu'il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de viande dessus, ça peut faire 4 mètres d'envergure quand même.
Ah oui, on s'accale.
Et puis pour aller au plus petit, c'est les copépodes qui sont des crustacés. Ça fait partie de, c'est la base du zooplancton, donc c'est microscopique. Mais il y en a des milliards et des milliards d'individus, et ces milliards d'individus, ça constitue la plus grande biomasse qui est sur cette terre de misère. Alors il y en a qu'on comptait, je ne sais pas s'ils ont fini. Il y en aura environ 50 milliards de tonnes. Sur cette quelque chose de faramineux, à moins que je me trompe de 2 ou 3 zéros, enfin c'est incommensurable, quoi. De toute façon,
c'est ce qui est étonnant quand vous donnez les envergures, on dit par exemple des poids des fois de 14 kilos, enfin on reçoit plein de trucs, les espèces qui vivent paraît-il à 800 mètres de profondeur, c'est le corps il n'est pas si important que ça, Jean-Pierre, c'est plutôt les pattes, les appendices qui sont longs.
Ah oui, complètement, les pattes, alors on arrivera là-dessus si vous voulez, puisque un crabe géant du Kamchatka, c'est simplement trois fois et demi, et pas plus, une belle araignée qu'on peut pêcher ici.
Oui.
Et donc, les pattes sur les plus grosses araignées, je pense qu'il y a, qui fait 1,40 m d'envergure environ, avec les pattes. Hein, il doit y avoir 30 cm de corps. Et puis, le reste, 1m40, 1m10, 65 cm de pâte.
Ah, d'accord. Hein.
Donc c'est un peu, c'est comme un oiseau, quand vous étalez tout ça, ça prend de l'envergure.
Alors j'ai remarqué une chose, on est passé dans la mer, mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur terre, Jean-Pierre.
Oui, avec, oui. Non, continuons à rêver quand on est ensemble.
Non mais il y a un crabe qui va tout le temps... pas fasciné, mais...
Les cocotiers.
Oui, le crabe cocotier.
Je commence à le connaître.
Ouais, vous me connaissez.
Pas le crabe, vous.
Non, vous. Non, et je regardais qu'il y en avait un qui était découvert à Hawaï dernièrement, dans la ville de Salt Lake.
D'accord.
Où, paraît-il, était assez gigantesque et les gens ont eu peur, quoi. C'est quoi ce crabe de cocotier? Il vit vraiment dans les cocotiers?
Ah oui, il vit et il fait des terriers. Hein, il est assez étonnant. C'est un pasjure, c'est-à-dire que c'est de la famille des Bernard l'Ermite, sur lequel on reviendra longuement. Parce qu'il a quelques caractéristiques intéressantes, ce cher Bernard.
Donc,
il se nourrit. Costaud, alors, c'est parmi les rares crustacés qui soient herbivores.
Ah oui.
Enfin, herbivores, ils mangent des plantes, quoi. Ils mangent des végétaux. Qu'ils mangeraient peut-être aussi des noix de coco.
Ben, pourquoi pas?
Puisque
qu'ils ne mangeraient pas de la charogne, non,
non, apparemment non. Enfin, moi, les paniers de crabe, je les évite.
Hein. Moi aussi, si je peux.
Je suis né dedans, mais j'évite maintenant. J'y ai travaillé, même.
Oui, c'est vrai. Oui. Non, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est comme les gros Bernard l'Ermite dont on parlera tout à l'heure. Ça va jusqu'à quand même 4 à 5 kilos, quoi. C'est costaud, quoi.
Ah oui. Ben, là-bas, les poissonniers disent qu'il en faut pas beaucoup pour faire une douzaine.
Hein. Mais oui, vous avez raison. Mais c'est énorme, hein, ces crabes-là. Alors, on dit que c'est l'un des plus gros crabes du monde. Bon, crabe terrestre. Maintenant, moi, je me méfie des superlatifs. Hein. Plus grand crabe du monde.
Ah, on est des grands enfants, on l'a dit. C'est la question que posent tous les enfants. Papa, est-ce que c'est un gros? Alors, ils prennent. Les crabes, vous savez, c'est le premier contact, en particulier dans les mers où il y a des marées, hein, ou ici, d'ailleurs, dans les mares. Ils prennent avec la petite épuisette, ils prennent un crabe. Alors, c'est panique à bord. C'est l'image heureuse des vacances en famille, quoi. Et puis, alors, à chaque fois, la question, est-ce que c'est un gros? Et puis, bizarrement, après, peut-être, est-ce que ça se mange?
Ah ben oui, ça se mange.
En espérant entendre oui ou non, enfin, oui.
Bon, ça se mange, mais apparemment, là-bas, là où il a été découvert, c'est-à-dire à Salt Lake, dans la banlieue de Honolulu, si vous attrapez le crabe, le crabe cocotier, qui apparemment est protégé, c'est quand même 3 ans de prison et 200 000 dollars d'amende. Hein.
Ça fait cher du kilo.
Ça fait cher du kilo, oui.
Alors que moi, j'ai vu et mangé de ces crabes, des cocotiers qui n'étaient pas les mêmes. Enfin, crabes de terre, quoi, ou crabes de vasouille dans le marais, quoi. En Afrique, d'ailleurs, non, c'était à terre. Hein, c'était quasiment...
Crabes de terre.
Crabes de terre dans les terriers. Et ça fait ventre. Et puis, les gens les mangent, vous savez, aussi assez souvent maintenant. Ils voient crabes farcis sur un menu. Ils ne demandent pas la provenance. Hein, et pourquoi pas,
je veux dire. Oui. En tout cas, ça c'est l'un des plus gros arthropodes, on dit comme ça? Arthropodes?
Oui, c'est un arthropode. Oui,
bon,
c'est ça.
Voilà.
Il y en a des arthropodes, c'est immense. Hein, un truc qui ressemble beaucoup, et pourquoi pas, les scorpions. Parce
aussi.
Que si vous regardez bien un homard et un scorpion, ça ressemble beaucoup.
Oui,
Vrai. Justement, alors on va démonter, si vous voulez, un crustacé.
Hein. Alors allons-y.
Allez, bon. Allez. D'ailleurs, chose qu'on peut faire aussi après, que tout le monde a fait, à mon avis. Tout le monde a démonté un crustacé.
C'est
peut-être
vrai.
Pas dans les mêmes, pour le moment, dans le même but que ce qui va être le nôtre immédiatement. Après, on va voir. On ajoutera la mayonnaise.
Si aussi. Tiens, mayonnaise, on en parlera tout à l'heure.
Ouais. Alors, s'il y a trois grandes parties, si vous voulez, dans ces animaux, il y a la tête, le thorax, ou céphalothorax, quand la tête et le thorax sont collés l'un à l'autre, et il y a l'abdomen.
D'accord.
L'antenne, on va dire en gros, pour s'en rendre compte plus facilement, on va aller plutôt vers un endroit où il y a des homards, si vous voulez, là, pour ça. Donc la tête, il y a des antennes.
Oui.
Il y a des yeux pédonculés, c'est assez marrant. Les yeux sont au bout de
très rigolo,
de trucs, et puis ça regarde. Il a un regard assez souvent chargé de reproches d'ailleurs. Moi, je vais de temps en temps les encourager dans les aquariums. Je leur dis bonhomme, c'est pas.
Il voit à 360, vous croyez?
Ah oui, je pense. Ouais. Ouais,
il voit pas derrière lui, par contre. Ça bouge, remarquez.
Dans l'eau, c'est très compliqué, hein, tout ça. Parce que, encore une fois, dans l'eau, il y a l'histoire de la pression. Hein, ces yeux sont aussi des capteurs de pression.
C'est vrai aussi.
Et puis, il y a aussi le fait que ces yeux servent... c'est un animal nocturne, donc il n'y a pas beaucoup de choses à voir, si j'ose dire, la nuit. Et puis, même le jour, quand on descend aux profondeurs, ils peuvent aller à 80 ou à 100 mètres, il n'y a plus de lumière. Cette bouche, la bouche avec les organes masticateurs, vous savez, ces trucs qui arrêtent pas de bouger.
Ces petites onibules, là.
Ouais, voilà.
Ah, d'accord.
Bon, ensuite, on va aller vers l'abdomen. Bon, qui est le, alors le thorax, c'est d'abord le thorax. Il y a surtout tout le système pulmonaire qui est dessus. Vous savez, si on le voit encore une fois, quand on rappelez-vous quand vous êtes en train de
quand on le met sur le dos, hein.
Voilà. Et puis aussi. Oui. Alors il y a une partie des papates, parce qu'il y en a 10 là. Ouais, sur des animaux, c'est des décapodes qui ont 10 pattes.
Cinq paires.
Bon, il y a une paire qui, alors on verra après quand on ira vers le homard et autres, qui est extrêmement spécialisée. Hein, ce sont les pinces. Et ensuite, il y a l'abdomen qui contient les organes sexuels et autres. Et c'est en général, alors là, on démonte la crevette, on ne mange que l'abdomen, si vous voulez.
Et oui. Quoi que dans la tête, il y a plein de choses.
Oui, mais bon.
Et dans les pattes.
Les pattes de crevette, il faut.
Oui, faut pas avoir crevette. Oui, ou pas d'appétit.
Alors, en général, c'est bébête. Sont des carnivores et charognards. Ah. Je parle de généralité. Hein, là,
oui, bien sûr.
Il y en a certains qui sont filtreurs. Ce sont ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont collés à quelque chose. Les balanes. Vous voyez ce que c'est, les balanes?
Les balanes, c'est quoi?
Les balanes, c'est lorsque vous faites de la plongée, c'est ce qui écorche votre peau sensible. Vous savez, ces espèces de chapeaux chinois de couleur blanche, d'ailleurs émettent des sons parce que les balanes se contractent quand on va dans l'eau. Donc c'est le contraire. C'est ce qui fait que le monde du silence n'existe pas. Il y a tout le temps constamment cette friture, si j'ose dire. Dans les crustacés assez étonnants qu'on peut voir alors qu'on mange pas, il y a les puces de mer qui sont des. Hein, on voit très nettement. Vous savez, quand elles sont restées au soleil, elles sont cuites. On voit que c'est parce que c'est une des particularités. Cette carapace, lorsqu'elle est à la chaleur, les substances qui sont au-dessus disparaissent et la véritable couleur est dévoilée. C'est ce qui en dessous, c'est un peu la même histoire que les feuilles lorsqu'il y a plus de chlorophylle. Elles perdent la couleur verte pour montrer une. C'est l'inverse.
D'accord.
C'est l'inverse, ça va dans le système. On continue à peu près, parce qu'on va pas aller. Il y a du sang, mais c'est assez étonnant hein, dans les crustacés, mais il n'y a pas d'hémoglobine.
C'est curieux ça.
Donc s'il y a du sang, il y a un cœur. Bon, alors il est à l'endroit où vous voulez. Hein, c'est
enfin, moi j'ai jamais vu. Hein.
Non plus. Enfin, on fera attention la prochaine fois.
Oui, regardez.
Il y a un système nerveux. Alors la grande question, on ne sait pas trop où il est. On se dit, on s'en moque. Mais après, on va arriver à une question absolument existentielle et essentielle. C'est est-ce que ça souffre ces bestioles-là?
Écoutez, quand j'ai vu certains cuisiniers jeter des homards vivants, voir des langoustes vivantes, voir des cigales dans de l'eau bouillante,
il vaut mieux.
Il y a un cri.
Non,
mais il y a un cri, il y a une forme de cri. Mais non, je ne sais pas si c'est de la douleur ou pas. Mais
oui, mais alors le pire, c'est dans l'eau froide, parce que vous le laissez crever un certain temps. Bah, vous allez les cuire comment alors?
Moi, je les cuis à l'eau bouillante.
Bah oui. Bon, alors il faut peut-être les assourdir. Non, mais on peut peut-être effectivement leur offrir une mort plus rapide avec un coup de couteau, mais où? Ça, alors, c'est le problème. Justement, le service nerveux central, il est où? Je ne sais pas.
On n'en sait rien. Ce que l'a dit, quand on regarde les chefs cuisiniers, que ce soit ici en Corse ou ailleurs, qui coupent une langouste en deux crue vivante pour la mettre sur un grill, le coup est sec, quoi. Maintenant, justement.
On se pose la question, s'il y a un système nerveux, est-ce que ça génère la douleur? Il y a de fortes chances que oui, puisque ça sert à ça, un système nerveux, entre autres. Comment ça se reproduit, ces petites bébêtes? La plupart ont des sexes séparés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas hermaphrodites. Sauf ceux qui le sont.
C'est les bonnes
d'habitude. Oui. Alors, par exemple, les bouquets, vous savez ce que...
Oui, c'est une petite crevette.
Le bouquet, c'est les plus grosses crevettes qu'on trouve sous nos latitudes. Quand on a des gambas et autres, c'est tropical, ça vient d'ailleurs. Hein, le bouquet breton, le bouquet de choses et autres, c'est une des plus belles choses que Poséidon ait créé pour nous.
C'est bon.
Et ceux-là sont hermaphrodites proandres.
Ah, d'accord.
Ils sont d'abord messieurs pour devenir femelles en vieillissant.
Waouh.
Ce qui se produit très souvent. Enfin,
il y a plein. Oui, le mérou, il y a des poissons, le mérou.
Il y en a exactement. Le mérou, lui, c'est progénique. C'est-à-dire qu'il est d'abord femelle pour devenir mâle.
Ok, là c'est l'inverse.
Pas question de sagesse, d'expérience acquise au fur et à mesure, ça n'a rien à voir. La carapace, on l'a dit, c'est la partie dorsale de... Ah oui, alors chose très importante, on aura dû commencer par ça. L'exosquelette, c'est-à-dire que c'est ça la carapace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie dure à l'intérieur, il y a des cartilages, mais il n'y a pas de partie dure. Et le squelette est à l'extérieur.
Est à l'extérieur, tout à fait.
Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous étiez à l'école, il y avait des cartes de géographie et autres, et des planches que mettait l'instituteur.
Tout à fait.
Qui venaient de chez Dérolle.
Oui.
Vous vous souvenez de ça?
Ah oui.
Eh bien, Dérolle, il a dans ses catalogues et dans ses, il a un cabinet de curiosité à Paris qui est absolument extraordinaire. Et il y a des gens de chez lui, alors d'il y a 100 ans, qui ont démonté le, complètement, alors là, réellement démonté le homard ou langouste, en reprenant toutes les pièces de l'exosquelette comme si c'était séparé. Et donc, à la limite, on les reprend, on peut faire un pulse. Et c'est assez étonnant parce qu'on s'aperçoit, qu'il y a plein de ces os extérieurs qui sont soudés ou pas d'ailleurs, mais qui existent.
Alors, on va écouter Belle Île en Mer. C'est une région que vous connaissez bien, ça. On va écouter une chanson et puis on va revenir sur le crabe et sur ses carapaces, Jean-Pierre. Parce que, j'ai cru comprendre qu'il y avait des carapaces qui étaient souples. Et d'autres qui étaient plus durs.
Ça dépend des moments.
Ben on va en parler dans un instant.
On va faire la mue.
On fait la mue, si vous voulez. Oui. On va écouter voilà. Belle Île en Mer. Parce que
faut
là,
réfléchir avant.
Voilà, ouais, voilà.
Jamais le premier soir. Hein.
Jamais, et ça part en sucette, là. Donc, on va écouter Belle Île en Mer, Marie Galland de Laurent Voulzy. Et on retrouve Jean-Pierre Fleury, bien sûr, dans Naturellement Vôtre. Aujourd'hui, les crustacés. Avec ou sans mayonnaise.
Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude.
Naturellement vôtre. En rediffusion le mercredi à 21h.
Et nous parlons aujourd'hui naturellement à vôtre avec Jean-Pierre, Fleury bien sûr, de crustacés. Alors nous avons parlé de... On l'a complètement démonté, on l'a fait... Voilà,
presque encore du boulot. Hein.
Oui, mais moi c'est la carapace, parce qu'on s'est quitté il y a quelques instants, mon cher Jean-Pierre.
Oui.
Où je vous parlais des carapaces souples et des carapaces dures.
Oui,
alors... Et vous me disiez, ça dépend, c'est la mue et ça dépend définitivement de la période.
Pour les amours, chez les crabes, il vaut mieux une certaine...
Souple.
Les crustacés, une certaine mollesse.
Oui, on peut le comprendre.
Bon. Chez la femelle, pas chez le mâle.
Ben oui.
Parce qu'effectivement, ces animaux s'accroissent, grandissent par mues successives. C'est-à-dire que la carapace, c'est ça ne peut pas grandir d'elle-même. Elle est là, et là, on ne peut pas pousser les murs. Mais l'animal, lui, à l'intérieur, grandit dans sa carapace. Donc au bout d'un moment, il change de carapace,
logique.
Il déménage. Alors, il déménage. Là, c'est la plupart, l'immense majorité, il fabrique lui-même une maison avec des murs plus vastes, plus larges.
Mm-hmm. Hein.
Donc, sous la vieille carapace, apparaît une carapace molle qui va pousser la vieille carapace
dehors.
Qui va devenir dehors.
Qui va la bouter.
Va la bouter. Et la nouvelle carapace, le problème, c'est qu'il faut qu'elle, au contact de l'eau, il faut qu'elle durcisse.
Donc, oui, mais ça, le calcaire, il y a plein de choses qui vont arriver.
Voilà, quoi. Oui, c'est ça. Donc, pendant ce temps-là, l'animal est mou.
Oui, mais alors s'il est mou, il se fragilise lui-même par rapport à ses prédateurs.
Ah, complètement, bien sûr. C'est un moment, on reviendra dessus. Bon, tout le monde sait, c'est vrai que dans un trou de homard, on trouve souvent, ici une murène ou un congre, dans l'Atlantique, il y en a un congre qui attend que son copain de logement devienne mou pour le torturer. Alors, il y a la perte, la carapace sert, on l'a dit, de c'est un blocos. Mmh. Bon, blocos qui
de une temps armure, en temps,
c'est une armure. Mmh. Une armure, alors c'est assez embêtant aussi parce qu'il y a certaines circonstances, il faut pouvoir la retirer, tout cas, il faut pouvoir déshabiller la chevalière. Donc c'est au moment où la crabe, entre guillemets, là est molle que la fécondation interne peut se faire, parce qu'il y en a...
Oui.
Et il y a aussi, de temps en temps, et c'est assez marrant, soit cette carapace, elle est là, et on subit ça, ou alors, la carapace, on la trouve ailleurs. Et c'est toute une famille, tout un ordre, pratiquement, j'ai évoqué tout à l'heure les pajures, les Bernard l'ermite, qui ont solutionné le problème en partie, en étant squatteur. Alors, squatter de quoi? Squatter de coquilles, de coquilles vides. Alors, c'est assez marrant, parce qu'une fois qu'ils sont mis là-dedans, il faut quand même qu'ils s'accouplent. Le Bernard l'ermite, c'est un ermite, parce qu'il vit dans une caverne, qui est donc considérée comme une caverne, c'est la coquille, mais il vit pas, il vit peut-être comme les moines d'ailleurs, c'est que de temps en temps, il faut quand même qu'il commette la chose, ce Bernard-là. Et ce Bernard-là, il quitte pas sa maison, mais il est équipé de quelque chose. Qui est le Bernard est bien équipé, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Je suis sûr que
j'ai compris.
Voilà, et qui lui permet de ne pas quitter sa coquille pour s'accoupler.
Magnifique. Mais il s'accouple avec un autre Bernard l'ermite, qui est
Bernadette.
Femelle.
Avec Bernadette. Bernadette.
Ouais, mais qui est faite comme lui, quoi.
Oui, il y en a, oui.
Mais elle, sexuellement, elle a aussi un organe qui va à l'extérieur.
Oui. Non,
non plus.
C'est monsieur qui part en visite.
Ouais. Eh ben, dites-moi. Et, voilà. Et c'est un crustacé, Bernard l'ermite, ou pas?
Ah bah oui, bien sûr. Ah
ben, bien sûr, oui.
Bah oui, malgré ça. Alors, mais il y a toutes sortes de réactions. Ça va dans toutes sortes. C'est une espèce de jeu de chaise musicale. Je suis persuadé que le bon Dieu, quand il a créé les Bernard l'ermite, il a mal compté. Il a mis une carapace vide en moins. On a tout le temps l'impression qu'il en manque une.
C'est clair.
Ah ouais.
Enfin, cela dit, le Bernard l'ermite, il est tout le temps dans le même genre de coquille. Hein. Il va pas n'importe où. Hein.
Premières fois où j'ai pris conscience d'une chose qui me fait pas rire du tout, d'ailleurs, mais c'était il y a fort longtemps dans les Tuamotu en Polynésie.
Ouais.
On était sur une de ces plages qui n'en finissent pas. Les Tuamotu, c'est les îles basses, vous savez.
Ouais.
Et puis, il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de minuscules Bernard l'ermite sur la plage. Tout ça bougeait dans tous les sens, ça affolait beaucoup les oiseaux, et donc c'était blanc. Coquilles, de petits coquillages blancs, de petits buccins blancs, vous voyez, ils se mettaient dedans. Et puis au milieu de tout ça, j'en vois un rouge.
Ah bon?
Et j'étais complètement étonné, je vais voir, et c'était déjà la pollution qui était arrivée à l'autre bout du monde, les Tuamotu, c'est quand même très très loin dans le Pacifique, et celui-là s'était mis dans le bouchon d'un tube de dentifrice.
Ah, oh, c'est atroce.
Et là, oui, voilà. C'est là, pour moi, c'est un des symboles des premières pollutions.
Donc, il avait pris la couleur définitive du tube dans lequel il s'était fourré.
Il était dedans. Il était dans le capuchon du tube de dentifrice.
Voilà. Ah, oui, il n'y a pas que les tortues qui avalaient les sacs en plastique, ces animaux-là aussi.
Les tortues, d'ailleurs, excellent parallèle, qui ont aussi un exosquelette.
Pareil, la même
chose. La coquille, c'est un exosquelette, mais qui grandit, lui. Elles sont pas obligées de muer.
Ah voilà, non, parce qu'il n'y a pas de... Si, quand elles sont toutes petites, quand elles sortent là, sur les plages, sur les bacs, c'est souple, mais après, donc, il grandit.
Grandit parce qu'il y a les écailles dessus qui sont plus ou moins soudées, etc.
C'est clair. À ce stade de notre rendez-vous, mon cher
ami. Oui, cher monsieur.
Je voulais saluer le travail qu'a fait c'est Stella Mar, qui est sur le cordon lagunaire de la Marne, qui était un organe scientifique qui dépend de l'université de Corte, qui a réussi la reproduction des oursins en milieu fermé, la reproduction des homards, parce qu'on va en parler dans un instant, en milieu fermé, et la reproduction du denti. Voilà. Et d'ailleurs, nous irons visiter cet été cet institut qui est magnifique, qui est dirigé par Antoine Daiolo et plusieurs scientifiques de l'Université de Corte. Et c'est un exemple au niveau mondial que d'avoir reproduit en milieu naturel, parce qu'ils ont reconstitué un milieu naturel. Voilà, j'ai vu la reproduction des homards, c'est magnifique.
Alors, ces choses permettent à la fois... Pourquoi pas l'élevage en aquaculture
après.
Et mais aussi, et surtout à mes yeux, chose extrêmement importante, permettre de repeupler en animaux sauvages.
Eh bien, c'est fait pour ça. Voilà. C'est la mare travaille là-dessus.
Exactement.
Alors, le homard, parce que bon, le homard...
Le crabe d'abord.
Alors, le crabe.
On va garder le homard. On finit, on n'a pas commencé.
Le homard pour la fin.
Voilà, pour la fine bouche. Alors, les crabes, ça vient de... Alors, c'est pas... Crabe ne vient pas de carapace, on pourrait croire d'ailleurs. Ce serait... Mais c'est un mot hollandais, peut-être que... qui veut dire crabus, ou enfin crabe... qui a d'ailleurs donné des mots qui sont... Bon, écrevisse, ça, c'est le même mot.
Hein. Ouais.
Et puis, hélas, le nom latin, cancer.
Cancer. Et oui, on dit le crabe, d'ailleurs.
Ah oui, on dit le crabe parce qu'on n'aime pas trop... Oui, c'est le crabe. Et puis, un autre mot qui est assez étonnant. Tout à l'heure, on entendait Belle-Île en mer.
Oui.
Les gens de Belle-Île, ils font la même chose que les gens de l'île de Ré. Je pense que oui, mange des chancres.
Ah bon ?
Ben c'est le même mot, tout ça.
Ah, c'est pareil.
Eh oui, alors ça peut paraître bizarre quand on voyait chancre à la mayonnaise sur un menu à l'île de Ré, ça j'en suis sûr, mais à l'île de Léron ou à Belle-Île, ça peut rendre dubitatif quand même. Enfin, on appelle ça...
Ouais. Enfin, mettez chancre à l'huile d'olive sur une carte d'un restaurant en Corse, à mon avis, ça va faire drôle.
Oui, complètement. Alors, on a dit, ces animaux ont 5 paires de pattes.
Oui.
Ce sont des décapodes. On a et puis bien sûr une paire de pinces. Ce sont des espèces sexuées. Alors, on dit à tort que les mâles sont plus trapus chez les crabes et ont les pattes plus fournies. C'est pas bien vrai tout ça. Hein. Pour savoir d'ailleurs si vous avez affaire à un crabe ou à une crabe. Alors c'est assez marrant parce qu'en ancien français, on disait une crabe.
Ah bon ?
Et moi j'ai retrouvé ça, on dit ça dans le vieux patois de l'anglo-normand, et je l'ai retrouvé chez les Louisianais, qui parlent et qui disaient une crabe.
L'ancien français.
Une crabe, il disait, un mot que j'ai entendu toute mon enfance, c'est une crabe à plein écale.
Ça veut dire quoi ?
Alors ça peut déjà, une indication importante, c'est-à-dire que c'est un crabe, c'est le moment de le manger. Ça peut peut-être attirer l'attention. Et il est à plein écale, parce que l'écale, c'est la coquille.
La coquille.
En vieux français, une écale. Hein. Et on dit écalé. Écaillé,
et les œufs, la même chose.
Voilà. Et donc à plein écale, parce qu'il est prêt à muer. C'est le moment où ces animaux sont bons. On reviendra là-dessus, ça a une certaine importance. Reconnaître un mâle d'une femelle, vous retournez la bête.
C'est la détention d'une femelle.
Si elle a des œufs, c'est une femelle, ça c'est... Bon. Mais des fois, elle en a pas. Hein. Donc, sous le crabe, il y a, dans la partie arrière, dessous, il y a une sorte de couverture, de petite couverture. Ce petit couvercle est de forme arrondie, c'est une femelle. S'il est plus pointu, c'est un mâle.
Bon,
voilà. Ça n'a strictement aucune importance.
Ben oui et non, parce que par exemple sur les araignées, puisque là c'est la saison des araignées, ça a quand même son importance, parce que les femelles sont plus denses que les mâles.
Ah bon ?
C'est ce qu'on m'a dit.
Eh ben si on vous l'a dit, moi je veux bien, mais ça dépend des moments. Et puis c'est pas une religion. Et puis moi ça me fait toujours mal au cœur quand je vois une femelle qui est grainée.
Ah ouais.
Hein, ça c'est une. Alors après il y a une question de cycle de vie, mais c'est toujours un peu dommage quand on voit une belle femelle homard qui est vendue vivante avec ses œufs. Moi je la prends pas.
Non, c'est clair.
Bon, alors sur nos côtes françaises, en gros, parce qu'il y en a plein d'autres, il y a 4 espèces de crabes.
Oui.
Le tourteau.
Le tourteau ou le dormeur. J'adore ça.
Voilà, on va arriver sur tous les noms parce que c'est une. L'étrille.
Ouais.
Il y en a quelques-unes, alors justement, on peut peut-être lancer un appel. Est-ce que vous, Corse, ou les gens qui ont...
Ben si, autres... Granchi, c'est les étrilles, à mon avis, chez nous. Les tout petits crabes verts.
Que non, c'est pas la
pas
même chose.
C'est pas
non,
la
non,
même
non.
chose. Bon,
non, non.
J'ai dit une bêtise.
Non, non, mais ça se ressemble beaucoup. Et il y a les crabes verts, justement, qu'on appelle les crabes enragés, et les araignées. On va commencer par le tourteau. Alors celui-là, c'est un trapu en forme de... Tourte.
De tourte, oui,
et
voilà, il est presque
bah, ça s'appelle un tourteau, c'est un petit peu pour ça. Hein. C'est un nonchalant, un indifférent, un endormi, c'est le dormeur.
Ah.
Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans certains endroits, on l'appelle le point clos, parce qu'il dort à point fermé.
Oui, il ne bouge pas, lui.
Oui, bah, sauf quand il se réveille.
Oui,
garantie qu'il y a quand même des pinces qui sont devant, et c'est quand ça a pris, ça ne lâche plus. Moi, j'ai vu des drames avec ça, des gens qui se penchaient sur l'étal d'un poissonnier. Est-ce qu'ils sont frais, vos crabes?
Ah oui, d'accord.
Oui. Clac, attrapé Allez. Dans une partie, une dame attrapée dans une partie, je crois savoir, sensible de son anatomie. Ça
fait drôle, hein.
Ah oui, parce que tu casses la pince, c'est comme si c'est, hein, c'est une pince qui ne s'ouvre pas. Alors, il grandit par mue, celui-là aussi.
Hein, ouais.
Donc, chaque mue, environ, il prend le double de son poids. Alors il peut, c'est quand même un pépère, ce qui peut, il faut savoir que les tourteaux, il y en a des qui sont quasiment énormes, puisque ça peut faire 110 cm.
Ah oui.
C'est-à-dire que le plateau de fruits de mer, il faut commencer à se mettre à plusieurs et à l'élargir.
Ah oui.
Alors il y a 70 cm pour le corps et le reste pour les pinces, mais des pinces qui font déjà 15 cm de long. Alors bizarrement, moi le poids qu'on m'a donné pour cet individu, on dit 2 kilos. Pour moi, ça fait beaucoup plus.
Ben, là, moi, j'ai vu, c'est pas vieux d'ailleurs. Hein. Mmh. C'était, je crois, c'est sur la région parisienne ou la région sétoise, je sais plus. Des crabes, des tourteaux, non, c'était sur la région parisienne. Des tourteaux qu'on m'a présentés qui faisaient pas loin de 4 kilos. Quoi.
Oui, bah donc, voilà. Effectivement, ça fait. Alors, il faut savoir que ces bestioles-là, c'est une bestiole qui est plus âgée, c'est autour de 15 ans, donc c'est quand même déjà un monument.
Ah ouais.
Ils ne sont capables de se reproduire qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, c'est-à-dire quand ils font 14 cm.
Ah, d'accord.
Je confesse que j'en ai pêché des paniers entiers qui faisaient beaucoup moins que ça. Quand on va à la pêche, à la marée, parce que c'est les gros descendent vers les profondeurs. Donc ils sont pas accessibles aux pêcheurs à pied.
Quoi. Ben maintenant vous auriez pris une amende, hein, puisque la pêche elle est autorisée qu'à partir de 13 cm.
Oui, mais je parle de... Oui, non, mais bien sûr. Oui, oui. Oui, mais c'est... Bon, bref.
Oui, bon.
Ah bon,
passons.
Alors, est-ce qu'il est plein ou est-ce qu'il est vide, votre crabe?
Moi, je pense qu'il est plein au niveau des pattes.
Alors, quand il est... Ben, s'il vient de muer, il est vide comme une vieille lanterne.
Il n'y a plus rien.
Hein, il n'y a plus rien. Comme c'est une baderne.
Ouais.
C'est une
vieille baderne.
Alors, s'il n'est pas encore cuit, le moyen de le voir, c'est que la face ventrale du tourteau est plus ou moins jaune.
Ah, d'accord,
vous voyez
c'est
ça
la suce. Oui, ouais, je le vois tout
sur
à fait.
La face ventrale des pinces.
Mmh,
hein,
mmh,
il est jaune. S'il est blanc, il est vide.
Bon.
Et une fois cuit, on le voit plus.
Mais
tout est rouge.
Oui,
tout
oui,
est rouge.
Oui.
Mais, vieille astuce d'un pêcheur de crabe, enfin, d'un consommateur de crabe, lorsque, déjà au poids, ça, c'est exactement comme un melon. Hein. Encore
d'accord.
une fois, un crabe qui est vide, il est vide et il n'y a rien dedans. Il n'y a que de la flotte. Donc ça n'a aucun intérêt.
Non, hein. Oui.
Bon. Pour qu'il soit plein, donc, c'est au.
Déjà,
vous le supposez.
Oui, bah oui.
Alors,
vrai.
Il est plein quand il est. Vous pouvez le savoir, j'ai dit quand il n'était pas cuit. Mais quand il est cuit, il y a un truc qui est infaillible. C'est de regarder derrière. Un crabe, c'est une boîte de cirage, si vous voulez.
Mm-hmm.
Il y a le haut ou le bas. À l'arrière de la boîte de cirage, quand vous l'avez cuit, si le crabe est plein, l'arrière de la boîte de cirage, le haut de l'arrière ou l'arrière du haut, se sépare.
D'accord.
Et là, vous voyez que vous pouvez
y aller, quoi.
Commencer, vous pouvez y aller. Voilà. Une chose intéressante à dire sur les crabes, le tourteau. On passe aux étrilles.
Oui, alors attendez, le crabe vert, on va passer vite dessus, mais c'est une tradition hein, chez nous.
Oui.
Même pas qu'à Bastia, je pense que dans différents ports où il y avait le petit crabe vert qu'on faisait cuire avec de la tomate, du riz ou des pâtes, avec des macarons, c'est une tuerie. Bon, je ferme la parenthèse.
C'est très bon, mais c'est aussi alors important dans certaines soupes de poissons.
Aussi.
Ou alors ça doit bien tenir, ça tient bien au corps. Moi, je peux en témoigner parce que on en met, ça donne énormément de goût.
Ah oui.
Et en même temps, on passe une bonne partie de la carapace.
Exact. On la presse.
Donc ensuite, tout ça, c'est moulu, c'est pressé, c'est pilonné. Donc,
et on fait de la bisque.
Bisque.
Voilà. Alors l'étrille, c'est plus petit, ça.
Oui, alors c'est beaucoup plus petit. C'est une sacrée bestiole, parce que moi j'en ai pêché plein. Alors, à la main, hein, puisque la pêche à pied a ce site particulier, je cite un sage que j'ai bien connu, que je connais bien toujours, fort heureusement, mon frère, qui est un des papes de la pêche à pied, et qui s'exprimait en disant « La pêche à pied a ceci de particulier qu'elle se pratique à la main ». Donc, à la main, on attrape les crabes, alors ces crabes, ces étrilles, que dans une bonne partie de la France, on appelle crabe-haleine, parce que la carapace est duveteuse. Ça vient pas souvent à l'idée de la caresser, d'ailleurs. Hein, c'est une. Elle a des reflets bleuâtres sur ses pinces, en particulier.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et elle a des rames au bout des pattes. Donc, on l'appelle aussi le crabe nageur ou le crabe sardine. Parce que dans l'eau, moi je les ai vus, le gros pépère tourteau, lui, c'est plutôt un rampant, si vous voulez. Tandis que celle-là, elle nage. Une étrille, qui fait 10 cm, c'est déjà un moment. Hein. Alors, à quel moment on peut la reconnaître aussi? Prendre un tourteau à la main, c'est pas tellement difficile. Hein. Il faut le voir.
Vous passez
par-dessus, vous lui coincez les pinces, et le tourteau peut pas retourner ses pinces. Tandis que l'étrille, elle retourne ses pinces. Et donc ça fait une petite différence.
Et puis ça fait mal aussi. Hein.
Ah bah ça fait mal, oui, bien sûr. C'était... Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit bout de crabe de rien du tout, là, comme les enragés, on parlait des crabes, on les appelle les enragés aussi, ils font tête. C'est-à-dire que vous voyez un crabe qui est, pour une raison ou pour une autre, s'est échoué sur le sable, vous essayez de le prendre, vous êtes quand même une montagne par rapport à lui, et bien lui, il va se dresser sur les pattes, et puis il va montrer ses pinces. Hein. Et bien souvent, c'est extrêmement efficace.
Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde près une étrille, la tête de l'étrille, on voit que tous les metteurs en scène et les réalisateurs de films de science-fiction, ils n'ont pas été chercher bien loin pour définir des monstres. Parce que c'est vraiment hideux, quoi. Ça fait...
Ah, moi j'aime bien, moi j'ai une certaine tendresse.
Ça fait peur. Ah non, mais la tendresse, c'est autre chose, mais ça fait peur. Ouais. Imaginez qu'ils soient un peu plus gros que vous l'avez
même
dans la chambre.
Même pas peur.
Bon, alors même pas peur. Vous savez ce qu'on va faire là? On va rendre hommage à nos amis pêcheurs, vous voulez, avec le petit Noros. Vous avez vos amis pêcheurs d'Ajaccio, les miens de Bastia et de tous les ports de Corse.
C'est tous les marins du monde.
Vous pouvez tenir la main. Piscao et Dayach, Tino Rossi, vous êtes dans Naturellement, votre avec Jean-Pierre Fleury, et l'on parle des crabes et des crustacés.
I veri bianchi stennerulari veni sul mare o marinaro u tempe dolci brillano i stelli l'onde lucente chiamano anch'elli o marinaro veni sul mare patron di l'onda sotto la luna pensa la bionda sogna la bruna pensa all'amore o pescarò alle guardenti di sanguinori canta l'amore o pescatore l'amor di un scoglio che tanto caro canto tuo cuore o marinaro veni sul mare padron di l'onda sotto la luna pensa la bionda sogna la bruna pensa all'amore o pescarò pensa la bionda, sogna la bruna, pensa all'amore, o pescarò.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.course.
Et on parle des crustacés aujourd'hui, on en a passé quelques heures en revue, notamment les crabes, les tourteaux, on a parlé des étrilles, étrilles que l'on trouve d'ailleurs sur les côtes méditerranéennes, chez nous notamment, il y a des étrilles.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Très peu, mais il y en a quand même un tout petit
pas
peu.
Pas confondre avec les crabes verts, les enragés, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, vous avez raison. Bon. On va parler maintenant de quelque chose que... Bah oui, le homard, il nous reste le homard.
Les araignées.
Et les arnayés.
Qui sont des crabes. On continue le panier.
Qui sont des gros crabes.
Voilà.
Qu'est-ce que
la grinta, hein, c'est ça?
La grinta, oui. Le crabe, c'est granchi. Alors, la grinta... Pardon. C'est magnifique.
Oui.
Ah oui, c'est majestueux, je trouve, dans l'eau.
Oui. Oui, bah alors ce qui est assez marrant, c'est que ça s'appelle quand même des araignées. C'est-à-dire c'est quand vous regardez bien, la majesté des araignées, en général, elle est passée sous silence. Tandis que là, tout le monde l'appelle araignée et personne n'en a peur. Enfin, personne, en tout cas.
Oui.
Alors, effectivement, ça ressemble à une araignée, c'est parce que ça a des pattes démesurées par rapport au corps. Petite différence quand même. Tant mieux, il y a plus de pattes dans une araignée dans la mer qu'il y en a sur Terre.
C'est au mieux.
Il y en a 10, bon, c'est aussi un décapode. Toutes petites pinces d'ailleurs hein, sur les araignées, qui sont des pinces assez symboliques. Hein, ça fait rien du tout. Moi, j'en ai pêché. On donnait des coups de chalut autrefois. J'ai participé parce que ce fut en partie mon métier il y a fort longtemps. Et on prenait dans une pouche de chalut, il y avait des fois 100 ou 150 kilos d'araignées.
D'araignées.
Et donc ces gros crabes. On se disait d'ailleurs, moi, peut-être parce que je venais de lire Jules Verne ou autre, si se rebellaient, on n'aurait pas l'air malin, quoi, parce que ça c'est quand même assez impressionnant. Alors une belle envergure, hein, on l'a dit, ouais. Ça peut faire. Un mâle peut faire environ, enfin largement un mètre d'envergure.
Ouais, quand même.
Ce sont des animaux assez étonnants. Ils ont les araignées ont un corps très triangulaire. Hein, vous voyez
oui, c'est vrai, exact.
Ça va vers le. C'est alors ça vit sur le sable, pas forcément loin des rochers. Là, c'est le nombre. Hein, c'est assez. En tout cas, il y a des grosses migrations. On verra là-dessus. On reviendra là-dessus. Ça vit quasiment en banc. Enfin, il y en a beaucoup. Cela dit, on va parler des homards tout à l'heure ou autre. On serait étonné de savoir que les homards et les langoustes, ils sont ceux qu'on va manger le soir, la veille ou l'avant-veille. Ils ont peut-être vu nager sur les plages.
Hein.
Et
oui, c'est vrai.
Et il y en a des fois dans un rocher, ça sort. Je veux pas dire que ça grouille, mais il peut y en avoir potentiellement pas mal. Alors, ça mange quoi? Ben, on peut le dire, hein, comme tout le reste, de la charogne.
Ben, c'est comme les crevettes, comme
tout ça. Je suis désolé, monsieur, mais ça bouffe de la charogne.
Ouais, c'est les poubelles des mers. Hein.
La preuve en est, c'est que quand ça se pêche au casier, bien entendu, et pour boîter les casiers, ben on met, c'est pas le meilleur poisson qu'on met dedans. On met de la boîte à casier.
Mais les crevettes, les langoustes, tout ça, c'est ce qu'on les appelle les croque-morts des mers, parce qu'ils mangent tout ce qui arrive. Quoi,
les coquillages aussi.
Hein, tout.
Les bulots, dans certains endroits, on appelle ça des manches chrétiens.
Ben voilà.
Alors. Et il paraît que ça préfère même les yeux, si vous voulez des précisions, puisque vous m'en avez.
Oh là là.
Bon, ce qui est assez étonnant, c'est on les appelle. Alors le nom scientifique, il y a le mot mai dedans. Hein, c'est Maya, Squeen Nadi. Maya pour mai, le mois de mai. On appelle ça des crabes de mai très souvent.
Ben c'est un peu la période où elles arrivent en plus. Hein.
Ben c'est parce que c'est ça. C'est-à-dire que pendant l'hiver, elles sont dans les fonds, pas tellement loin. Et il y a une migration à Papate. Hein, alors là, ça a été filmé, c'est complètement fou. On dirait une panique. C'est une panique pour aller se reproduire dans des eaux un petit peu plus chaudes, certainement un petit peu plus riches aussi. Et c'est malheur à celui qui s'arrête, il y a les autres qui marchent dessus.
C'est la même chose sur la migration des crabes rouges. Hein, quand on voit ces espèces de colonnes qui font 10 kilomètres.
Oui,
10 kilomètres, peut-être pas, mais
oui, c'est aussi... Parce que là c'est, alors il y a les crabes, les îles Salomon et autres, vont se reproduire à terre.
Ce qui est c'est assez curiosité.
Et puis il y en a d'autres qui sont à terre, qui vont se reproduire en mer. C'est aussi une curiosité.
Ils se croisent.
Ce qui fait qu'ils se croisent, mais des fois, oui, ils se croisent sur la route, ils sont écrasés. Quoi.
Ouais.
Tout le monde sait, je ne vais pas vanter la qualité de la chair de ces crabes, qui sont des... Alors juste un petit truc que je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans ces crabes, il y a à manger partout, si j'ose dire.
Oui.
C'est long.
Ouais.
Et des fois, alors on s'attaque à une patte, et puis c'est encore plus long, parce que la chair se délite. Embêtant, ça. Eh oui. Et donc, il y a un moyen relativement moderne pour empêcher que ça se délite, c'est que, bon, bien sûr, bon, là, on fait cuire ces crabes, et avant qu'elles soient refroidies, il faut les mettre dans un sac de congélation.
Oui.
Encore tiède. Vous les mettez au frigo pendant quelques minutes. Là, je vois que j'attire votre intérêt, là, d'un seul coup.
Hein. Oui, vous avez les yeux qui froncent.
Ouais, oui. Pendant quelques minutes. Et il y a un phénomène, ce qui fait que les chairs s'agglomèrent et sont beaucoup plus faciles à extraire.
D'accord. Bah écoutez, il y en a qui ont écouté avec attention aujourd'hui.
Alors, il manque plus que la mayonnaise, encore une fois.
Alors la mayonnaise, mayonnaise, c'est quoi? Ça vient d'où ça?
La mayonnaise.
Ah, c'est la mayonnaise à l'origine.
C'était vers 1830, l'escadre française était encalminée du côté de Majorque.
Oui.
Et le monsieur Mahon, je crois, qui commandait l'escadre.
L'amiral de la flotte.
Voilà, amiral de la flotte. En général, il y avait une bonne table là-dessus. et bah, son cuistot, il devait plus y avoir que des crustacés à manger ou du poisson froid à inventer. Il semblerait que ce soit là la mayonnaise. Quoi.
Non, bon, après, il a inventé donc de
tout
la
moutarde. Tout le monde sait la faire, tout le monde essaye de la faire, mais tout le monde n'y arrive pas.
Oh, c'est pas compliqué, la moutarde, du jaune d'œuf, du sel, du poivre et de l'huile.
Bon. Faut mettre l'œuf sous le bras.
Ah bon, c'est nouveau ça.
Bon, c'est pas, non, il faut réchauffer. Moi, je suis pas cuisinier. Si Lily m'écoute, elle doit se marrer. Mais je sais faire la mayonnaise et je sais qu'il faut pas que l'œuf soit froid.
Alors, il paraît que renseignement pris auprès des chefs cuisiniers,
oui,
et notamment de mon fils, il dit oui, c'est une vue de l'esprit. Il paraît que de dire que tous les produits doivent être à même température. Alors du coup, moi, j'étais comme vous. Hein. J'ai testé avec un œuf qui sortait du réfrigérateur. J'ai mis le jaune dessus, j'ai monté ma mayonnaise et ça a marché.
Et ben voilà. Bon. Non, mais je trouve marrant de le couver un petit peu.
Oui, c'est vrai. Mais c'est comme cette histoire qui dit que les femmes, lorsqu'elles ont leur menstrue, ne peuvent pas monter de la mayonnaise, c'est une bêtise. Ah bah bon, oui, alors, il y a les araignées. On peut aller vite parce que là, le temps court et j'aimerais qu'on arrive au homard quand même, mon bon
ami. Ben, on peut dire qu'on y est sur le plateau.
Qu'est-ce que c'est magnifique.
Alors, c'est potentiellement quasiment à égalité, le plus grand crustacé qui est sur nos côtes. J'en ai vu un récemment, qui était mort depuis longtemps, qui était au musée océanographique de Malte.
Ouais.
Il faisait 1 mètre de long, le machin.
Ah oui.
Ouais, ça fait quand même pas mal.
Ça fait un monstre, hein.
Ah oui. Alors, bon, chez nous, il est bleu clair à bleu foncé.
Oui.
Hein, des antennes orange, plus ou moins, et des pinces asymétriques.
Et quand il est cuit, il est orange.
Il est rougeâtre, comme tous les crustacés, qui perdent leur couleur originale.
Tout à fait.
Je dis bien qu'ils perdent, c'est pas le rouge qui se crée, la couleur du dessus qui s'en va.
Ça va. Ouais.
Les pinces, elles sont asymétriques, il y a une broyeuse et une coupante.
D'accord.
C'est un marcheur. Hein. Bon, il est capable de fuir en compressant sa queue, vous savez, mais c'est quand il est... Quand
comme
il est
la langouste.
Comme la langouste, comme les écrevisses, tiens, surtout,
oui,
c'est l'image qu'on a aussi.
Mmh.
Et donc, il marche, il est dans son trou, et c'est un nocturne, donc il sort à la recherche de sa nourriture. Nourriture, c'est toujours la même, c'est toujours, si possible, des charognes.
Mmh.
La pince broyeuse lui permet quand même de manger des coquillages frais.
Ouais, quand même.
Et oui, et puis tiens, le pauvre là, notre Bernard Lhermitte qui croyait être peinard dans son truc là, des fois là,
hier,
c'est une...
il a son
alors le il peut faire il y a des poids, alors c'est pareil, il y en a toujours plus, je sais pas.
Bon.
Moi, ce que j'ai lu, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, 7 kilos maxi.
Oui, alors moi, exact, 6 kilos 8, j'ai vu ici, en élevage, 6 kilos 8, oui.
Ah oui, en élevage, oui, mais ça c'est différent. Ça peut vivre 50 ans dans la nature, quand même.
Ah, c'est quand même.
Alors, on dit que les plus gros sont relativement vides, etc. Bah, c'est vrai, parce que le cycle est beaucoup moins rapide. La mue de tous les crustacés est rapide dans les premiers temps, hein, et ensuite ça s'espace et donc il y a moins de les périodes de vide ou de vide relatif sont beaucoup plus grandes. Il est commercialisé quand il fait 23 cm, commercialisable. Ça veut dire qu'il a 4 ou 5 ans, et ça veut dire que le pépère là il est encore puceau.
Eh ben oui.
Ce qui est fort dommage.
Il faut le laisser.
Ben, ça veut dire qu'il n'a pas fait son boulot d'individu sur cette terre. Il n'a pas eu le temps de se reproduire.
C'est vrai.
Il a un cousin américain, qui est le homard du Maine.
Eh oui, le homard américain.
Beaucoup moins bon, rien à voir. Vous laissez pas avoir en vous disant j'ai acheté un homard pas cher. S'il est pas cher, il vient de là-bas. Et ça n'a pas du tout le même goût. C'est pas une question de chauvinisme ou de quoi que ce soit.
Et puis il y a le homard bleu de Bretagne que vous aimez bien.
Et puis bon, il a une cousine et on en parlera peut-être plus tard.
Ben, ouais.
Qui est très proche, c'est la langoustine. La langoustine est plus proche du homard
que de la
langoustine est proche de la langouste.
Bon.
Voilà.
Ben nous, on va continuer parce que on n'a pas parlé de la langouste.
Vous en avez plus faim.
On n'a pas parlé de la cigale. J'ai très faim, oui, j'ai très très faim.
Ah bon,
nous, on va se retrouver la semaine prochaine, je vous propose, c'est qu'on va reparler un tout petit peu de ce qui nous reste. C'est-à-dire, j'aurais bien qu'on conclue sur la langouste et la cigale.
Il y en a tellement qu'on va peut-être... Je vais repréparer un plateau de fruits de mer.
Bon,
il sera
beaucoup
plus vaste.
Alors.
Et sans... On va... Reconnaissez qu'on parle un petit peu des chevaux.
Ben, on va en parler.
Comme un poulain d'avril. Je me sens fou comme un poulain d'avril.
Joli. On se quitte avec Georges Brassens et la bateau de pêche.
C'était
au revoir, mon beau.
Un petit, petit voilier, un petit bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. à son tour. Il voulut entreprendre un voyage long cours. Alors il s'en fut magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive. Et le ver luisant qui servait de phare lui criait rejoins la rive. Mais il répondit d'un air malséant, je ne crains pas les déboires, aussi bien le fleuve et les océans, ce n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes, quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger, tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Il ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entrepôts, adieu la jolie frégate. Sauf qui peut crier le navire en détresse. Sauf qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi quand on n'est qu'un petit navire.